Bonjour à tous, content d'être avec vous d'une certaine manière. Je sais que c'est bizarre que je sois à distance, en vidéo. Vous demandez peut-être, mais c'est qui ce petit jeune qui débarque dans le culte ici? Content d'être avec vous d'une certaine manière. Et c'est bizarre pour moi d'enregistrer ici, depuis le bâtiment de mon église à Bruxelles, cette prédication que j'aurais dû apporter parmi vous. J'aurais dû être avec vous ce week-end à Toulouse. Mais bien évidemment, les plans ont bien changé depuis tout ce qu'on a planifié. Mais j'espère qu'on pourra néanmoins être encouragés ensemble. J'espère qu'on pourra voir que la parole de Dieu n'est pas confinée et que la puissance de la parole de Dieu n'est pas limitée à tous ces aspects digital. On a commencé une série de prédications sur le livre des psaumes dans notre église il y a quelques semaines. C'est particulièrement encourageant et j'ai eu le privilège de prêcher sur le psaume 23, un psaume très connu, peut-être probablement le psaume le plus connu de la Bible, si ce n'est le chapitre le plus connu de la Bible. Peut-être que vous l'avez accroché quelque part chez vous avec un poster et j'ai vraiment été encouragé d'étudier ce texte, d'étudier ce psaume 23. C'est peut-être un peu le danger de ces chapitres, de ces versets que on connaît plus que bien, de jamais prendre le temps de plonger notre âme dans ces vérités et d'être encouragé par les vérités qu'il présente. Et j'espère c'est ce qu'on pourra voir ensemble. Je m'étais dit que c'était une bonne chose de pouvoir partager ces richesses de la parole de Dieu aussi, du psaume 23, avec vous, les frères et sœurs à Toulouse. C'est bizarre de ne pas pouvoir parler plus avec vous et d'être juste là en vidéo, mais merci Seigneur malgré tout pour la technologie et ce qu'on peut faire avec ceci. J'imagine que vous connaissez le cantique « Quel repos céleste ». Je suppose que vous le chantez quelquefois dans votre église à Toulouse. On le chante beaucoup ici, on apprécie beaucoup ce cantique. Et une strophe de ce cantique dit ceci: quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses, dans ton grand amour, chaque jour tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Mais avec tout ce qu'on a vécu ces dernières semaines, avec cette crise mondiale que l'on traverse, on pourrait se demander, mais est-ce que ces paroles sont vraies, même malgré la crise mondiale que l'on vit? Tu me combles de tes richesses, tu conduis mes pas. Une autre strophe de ce cantique, quel repos céleste, dit ceci: quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Tout est bien, ma paix est infinie. Est-ce qu'on peut vraiment avoir la paix dans les jours mauvais qu'on vit en ce moment? Des jours mauvais qui sont alimentés par les nouvelles, par l'inquiétude, par la peur de ce qui va arriver, la peur de l'avenir. Ben, si on comprend et si on s'approprie correctement le psaume 23, oui, on verra qu'on peut chanter ces paroles avec assurance, même malgré la crise que l'on vit. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin, donc en étudiant le psaume 23. Et j'aimerais maintenant lire ce psaume. Je lis le psaume 23 dans la version Colombe. Psaume 23, verset 1. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Voilà ce psaume 23, un des psaumes les plus connus de la Bible. Et voyons ensemble ce qu'on peut apprendre, ce qu'on peut découvrir comme richesse de ce psaume. Mais avant d'aller plus loin dans l'étude de ce psaume, comme tout passage de la Bible, on a besoin de chercher à le comprendre de la bonne manière. Parce qu'il y aurait le danger de prendre les paroles de David dans ce psaume, de se les approprier sans tenir compte du contexte dans lequel David a écrit ces paroles, du contexte dans lequel David a écrit ce psaume, et sans tenir compte du contexte dans lequel nous sommes, chrétiens, aujourd'hui. On pourrait penser, si on comprend mal ce psaume, si on lit trop rapidement, qu'il nous est promis ici une abondance matérielle, un compte en banque qui sera toujours fourni, une vie sans épreuve, sans problème. Mais dire ces choses en se basant sur ce psaume, ce serait passer totalement à côté du sens que David a voulu pour ce psaume. D'abord parce qu'on voit qu'il n'était pas question pour David d'une vie qui était un long fleuve tranquille. Au verset 4, il parle de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Et au verset 5, on apprend qu'il est entouré d'ennemis, entouré d'adversaires. Mais donc, alors, avant de voir comment ce psaume peut nous encourager dans cette crise que l'on vit, cette crise que l'on traverse, j'aimerais juste faire trois remarques qui vont nous aider à mieux comprendre ce psaume pour aujourd'hui. Trois remarques pour nous. première remarque, David avait une relation personnelle avec Dieu. David avait une relation personnelle avec Dieu. Ce psaume nous décrit la confiance que David avait en son Dieu. Et on voit une relation très personnelle dans ces versets. C'est clair, en lisant ce psaume, que David connaissait son Dieu et que son Dieu le connaissait. Et c'est pour ça qu'il peut dire avec certitude, l'Éternel est mon berger. Il avait placé sa confiance en Dieu, en l'Éternel et en lui seul. Il reconnaissait qu'il y avait un seul Dieu dans le ciel, qu'il était le seul vrai Dieu. Et c'était en lui qu'il avait choisi de placer sa confiance. Et donc ce psaume ne s'adresse pas à n'importe qui, mais à ceux qui ont reconnu l'autorité de Dieu sur leur vie. C'est seulement dans ce contexte-là qu'on peut réclamer les bons soins de ce Dieu-là qui sont décrits dans ce psaume. Et si on y réfléchit, c'est un privilège immense. L'Éternel est mon berger. Il est question du Seigneur haut et élevé dans sa gloire, le roi de gloire à qui le monde appartient, comme le montrera le psaume suivant, le psaume 24. David dit, ce Dieu-là est mon berger. Ce Dieu-là, il prend bien soin de moi. Et ça, c'est le privilège que l'on a si on a placé notre confiance en Jésus, d'avoir cette même intimité, de pouvoir dire par la même grâce que le Dieu de l'univers est notre berger, qu'il est au contrôle de nos vies, qu'il prend bien soin de nous. Et c'est un encouragement dans cette crise que l'on a traversée, que l'on traverse encore. Imaginez ceux qui traversent cela sans voir le bout du tunnel, sans réponse à leurs craintes, sans savoir ce que l'avenir leur réserve. Alors que nous, on peut dire, mais il y a un Dieu dans le ciel, il règne sur ce monde, il règne sur ma vie, et il est mon berger. Il prend bien soin de moi, il est au contrôle, et il ne me laissera pas tomber. Et ça remet en cause l'idée d'un Dieu qui serait lointain, d'un Dieu qui serait insensible à la souffrance, d'un Dieu qui aurait créé le monde pour le laisser se débrouiller par la suite, d'un Dieu qui serait insensible à la crise mondiale que l'on vit. Non, là, ici, dans ce psaume, l'image du berger nous montre la réalité d'un Dieu qui est proche, d'un Dieu qui se soucie de nous, d'un Dieu qui se soucie de nos vies, d'un Dieu qui est à l'œuvre. Et ça vaut le coup donc de se poser la question, mais est-ce que vous connaissez ce Dieu-là ? Ou est-ce que ce Dieu, c'est simplement pour vous un concept religieux, une habitude du dimanche, quelqu'un que votre père ou votre mère connaît, quelqu'un que votre conjoint connaît, mais que vous ne connaissez pas personnellement? Je vous encourage à vous intéresser davantage à la foi chrétienne, à la personne de Jésus, pour voir comment Jésus peut offrir cette intimité de relation avec le Dieu de l'univers. Deuxième remarque avant de se lancer dans l'étude de ce psaume, David vivait à une autre époque que la nôtre. On doit être conscient de ça. David vivait à une autre époque que la nôtre. C'est assez évident de dire ça, ce psaume n'a pas été écrit au XXIe siècle. Et David vivait dans un contexte particulier, avant la venue de Jésus, où c'était effectivement le cas que la bénédiction de Dieu se manifestait de manière physique, matérielle. La bénédiction de Dieu se manifestait de manière physique, matérielle. C'est ce que Dieu avait dit quand il avait conclu une alliance avec le peuple d'Israël. « Si tu m'obéis, tout va aller bien. Tu vas vivre dans un bon pays, tu manqueras de rien. Mais si tu désobéis, ce que le peuple a fait, la juste réaction, ce sera le jugement, ce sera la malédiction, ce sera l'exil. La bénédiction de Dieu se manifestait de manière physique, matérielle. Et donc les paroles de David dans ce psaume, « Tu fais déborder ma coupe » ou « Je ne manquerai de rien », ils ont une coloration beaucoup plus matérielle pour lui à l'époque qu'elles ne l'ont pour nous aujourd'hui. Parce qu'on vit dans une époque bien différente après la venue de Jésus. Où il est toujours question d'une bénédiction, oui c'est vrai, mais d'une bénédiction qui se trouve en Christ. De bénédiction matérielle, oui, mais pas pour maintenant, pour la nouvelle création. Et surtout de bénédictions spirituelles qui ne sont pas moins réelles, qui ne sont pas moins vraies, qui ne sont pas moins glorieuses. Mais donc ça veut dire qu'on veut lire ce psaume à la lumière de ce que le Nouveau Testament nous enseigne sur la vie chrétienne, à la lumière de ce que Jésus a accompli par sa vie, par sa mort et par sa résurrection. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure de notre étude de ce psaume, on évoquera certains versets du Nouveau Testament qui nous aident à comprendre comment ces vérités s'appliquent à nous aujourd'hui. Troisième remarque courtement, avant de se lancer, Jésus est notre bon berger. Jésus est notre bon berger. Ce n'est pas une surprise de dire ça, j'espère, pour nous en tant que chrétiens. Jésus lui-même l'a dit dans Jean au chapitre 10, « Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et donc, c'est une réalité pour nous, chrétiens, que nous avons un berger, un bon berger, qui a donné sa vie pour nous. Et donc on perd rien de la puissance de ce psaume pour nous aujourd'hui, au contraire. Ce psaume 23 nous montre justement les bénéfices, nous décrit les bénéfices que nous avons du fait que le bon berger ait donné sa vie pour nous. Alors on peut se demander, mais quels sont ces bénéfices qui sont décrits? Quels sont les bons soins de notre Père Céleste à l'œuvre dans notre vie? C'est ce que je vous propose de voir ensemble maintenant en étudiant ce psaume. Et je vous propose de voir quatre certitudes que nous avons en tant que chrétiens, même au milieu de cette pandémie. Quatre vérités qui ne changent pas, auxquelles notre âme peut s'attacher et qui sortent, qui émergent de ce psaume 23. Première certitude au milieu de la crise, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. David a été berger dans sa vie et donc tout naturellement il se sert de cette image pour une grande partie de ce psaume. Et c'est basé sur cette image qu'il dit « Je ne manquerai de rien ». Et c'est assez logique si on y pense, le travail le plus basique d'un berger, c'est de s'assurer que ses brebis ont ce dont elles ont besoin pour vivre. Le travail le plus basique d'un berger, c'est de pourvoir. Mais le fait de pourvoir dépend de la capacité du berger à donner suffisamment de nourriture à ses brebis, à trouver des verts pâturages où les amener, à des eaux paisibles où les conduire. Mais si c'est l'Éternel, mon berger, alors j'ai pas à craindre de manquer. J'ai pas à craindre qu'il soit pas capable de donner à ses brebis ce dont elles ont besoin. Il n'a pas de limite dans sa puissance, il n'a pas de limite dans sa capacité. L'Éternel est mon berger, donc je ne manquerai de rien, on pourrait dire. Cette affirmation, elle est basée non seulement sur le fait que l'Éternel est tout puissant et donc qu'il peut répondre à mes besoins, mais aussi que c'est l'Éternel qui est mon berger et donc qu'il veut pourvoir à mes besoins. Et c'est ce que Paul dira quelques années plus tard aux chrétiens de Philippe. Il dira ceci, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. » Dans Philippiens 4, verset 19. Est-ce que ceci, c'est une promesse de jamais connaître la pauvreté, de jamais connaître la faim, de jamais connaître le besoin? Non, dans le contexte de ce verset, Paul dit qu'il a traversé des moments de pauvreté où il a connu la faim, où il a connu le besoin. Et il dit aussi que peu importe ce qu'il vivait, il avait appris à être content, à être satisfait de sa situation, parce que Dieu pourvoyait selon ses besoins. Peut-être que pour vous, cette crise est particulièrement difficile parce que vous vous retrouvez ou vous êtes retrouvé pendant un temps sans activité professionnelle et sans revenu. Et ça fait surgir des inquiétudes dans votre cœur, de la crainte et tout un tas de questions. Mais j'espère que vous pouvez être encouragé par l'affirmation de David que l'on voit dans ce psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas un berger qui abandonne ses brebis. Ce n'est pas un berger qui est dépassé par la situation. Non, c'est un berger qui prend soin de ses brebis. Non seulement qui est capable de le faire, mais aussi qui veut le faire. Mais de manière encore plus profonde, en tant que chrétien, on peut affirmer que Dieu pourvoit et qu'on manque de rien. Parce qu'en Jésus, on a tout reçu et on a besoin de rien de plus pour être comblé. C'est ce que nous enseigne Romains 8, verset 32. « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui ? Par grâce. » Dieu nous a donné ce qu'il y avait de plus coûteux, de plus précieux, son propre Fils mort sur une croix pour nos péchés. À la lumière de la croix, est-ce qu'on pourrait encore douter de la bonté et de l'amour de Dieu pour nous ? De sa promesse de prendre soin de nous et de nous donner tout ce dont on a besoin ? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et avant de passer à la deuxième certitude que ce psaume met en avant, j'aimerais juste mettre en avant deux domaines dans lesquels on a particulièrement besoin d'affirmer ceci, que l'Éternel est mon berger et que je ne manquerai de rien. Deux domaines de notre vie et qui nous concernent, j'imagine, beaucoup d'entre nous. Le premier domaine, c'est celui de la sécurité. Parce qu'on est constamment tenté dans ce monde de mettre notre sécurité ailleurs qu'en Dieu. Dans la réputation que j'ai aux yeux des autres, c'est à ça que je me rattache. Ou dans ma famille, dans ma petite cellule familiale, c'est ça qui fait que je me sens bien. Ou alors dans mon travail, je m'investis sans relâche dans ma carrière pour trouver la sécurité, pour trouver le repos dont j'ai besoin, pour me sentir bien, pour me sentir à l'aise, pour que ça me donne le sentiment que tout va bien. Ou alors on peut mettre notre sécurité dans des projets qu'on organise, dans des vacances qu'on planifie, dans les choses qu'on veut faire plus tard, dans nos plans pour l'avenir. Et on est agrippé à ces choses, on les tient fermes dans notre main. Mais qu'est-ce qui se passe quand on perd tout cela? Qu'est-ce qui se passe quand un petit virus vient chambouler tous nos plans, vient mettre à mal tout le fondement de notre sécurité? Comment est-ce qu'on réagit? eh bien, on réalise, comme ce psaume nous y appelle, qu'on doit lâcher prise sur ces choses, qu'on doit ouvrir la main et relâcher la pression pour dire à la place, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il prend bien soin de moi. C'est lui qui est ma sécurité et lui, il ne va jamais m'abandonner. Le deuxième domaine où on a besoin d'affirmer ça, d'entendre cela, c'est celui des craintes. Avec ce qu'on vit en ce moment, ce qu'on a vécu et ce qu'on traverse, on peut facilement ressentir au-dessus de nous un nuage de crainte qui pèse sur nous. Parce qu'on vit dans l'incertitude. Peut-être que vous êtes au chômage technique et vous ne savez pas quand vous allez pouvoir retravailler. Peut-être que vous avez des projets importants de votre vie qui ont été annulés. Peut-être que cette crise va impacter votre quotidien pour les prochaines années et vous ne savez pas quand vous allez pouvoir retourner à une vie normale. Je disais il y a quelque temps que certains parlent de distanciation sociale jusqu'en 2022. Et face à ça, on se dit, mais de quoi l'avenir sera fait? On peut ressentir des craintes au-dessus de nous. Mais là encore, on a besoin d'affirmer, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et on pousse un ouf de soulagement en disant ça, n'est-ce pas? Pas parce que le fait de dire va l'accomplir, comme si on répétait tout va aller bien pour que tout aille bien. Mais parce que affirmer ça, c'est affirmer ce qui est réel, c'est affirmer ce qui est vrai, c'est affirmer ce qui est juste et c'est encourager nos cœurs à nous attacher à cette vérité, à la réalité, à pas porter nos pensées, notre cœur, nos affections vers ce qui est pas vrai et vers ce qui nous amène à craindre, mais c'est porter nos pensées, nos affections, notre cœur vers ce qui est réel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On s'attache pas à ce qu'on ressent, mais on s'attache à ce qui est réel. Deuxième certitude que nous révèle le psaume 23, il me conduit. Deuxième certitude au milieu de la crise que l'on vit, il me conduit. Un des autres rôles fondamentaux du berger, c'est celui de conduire ses brebis. C'est lui qui décide où elles doivent aller, parce que c'est lui qui sait ce qui est bon pour ses brebis, et c'est lui qui contrôle son troupeau. Il n'est pas dépassé par ses brebis. Il peut conduire son troupeau où il le veut. Et dans ces versets, il est question d'être conduit dans des verts pâturages, dans des eaux paisibles, sur les sentiers de la justice. C'est lié à ce qu'on a vu avant. Le berger pourvoit à ce qui est bon pour ses brebis et pourvoit ce dont ses brebis ont besoin. Et pourquoi est-ce que le berger fait ça? La réponse, verset 3, à la fin du verset 3, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause de son nom. La réputation d'un berger dépend de sa capacité à prendre soin des brebis. Si un berger emmène ses brebis dans un repaire de loups, on va lui dire « Mais où est-ce que tu as eu ton diplôme? T'es pas à la hauteur d'être un berger. Tu les emmènes au mauvais endroit. » Et c'est dans ce même sens que Dieu agit à cause de son nom. Il nous dirige, il nous garde dans ce qui est bon pour nous, car sa réputation est en jeu. Il doit agir conformément à son caractère, et ça c'est une bonne chose. C'est ça qui nous donne l'assurance qui nous conduit, qui dirige nos vies, et c'est ça qui nous donne l'assurance qui ne va pas nous laisser tomber, qui ne va pas nous relâcher. Et c'est tout l'image de ce psaume de dire que si Dieu est le berger, non seulement c'est lui qui pourvoit, mais aussi c'est lui qui conduit ma vie. C'est lui qui est au contrôle. Ma vie et mes circonstances ne lui échappent pas. Et donc, ça veut dire que je peux lui faire confiance. Je peux lui faire confiance. Et la question, c'est pas de savoir pourquoi est-ce qu'il nous conduit là où il nous conduit, mais c'est d'être rassuré que c'est lui qui nous y conduit. Et donc, on n'a pas à tomber dans le désespoir. Dieu sait ce qui est bon pour nous et il nous y conduit. Dieu n'est pas dépassé, il est au contrôle de nos vies. Et il nous conduit souverainement. On peut se demander, mais pourquoi est-ce que Dieu nous a conduit dans cette pandémie? Pourquoi est-ce que Dieu nous a conduit dans cette crise que nous vivons? Pourquoi est-ce que Dieu me conduit dans les circonstances que je vis en ce moment? Peut-être que vous passez par des moments particulièrement difficiles et vous demandez, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as conduit là où je suis aujourd'hui? Et le psaume 23 ne répond pas à toutes ces questions. Mais la réponse que le psaume 23 donne, c'est de dire, c'est Dieu qui conduit ta vie, alors sois en paix. Il n'est pas dépassé, il n'est pas un tyran, il est un berger, et il est un bon berger. Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi il te conduit là où il te conduit, mais tu peux être rassuré que c'est lui qui t'y conduit. On parle souvent de Charles Spurgeon, le prédicateur anglais du 19e siècle, mais on parle moins souvent des nombreuses épreuves qu'il a traversées dans sa vie. Il a eu beaucoup d'épreuves, de moments difficiles de sa vie. Il a eu beaucoup d'opposants, d'opposition. Au début de son ministère, quelqu'un a créé un mouvement de foule alors qu'il était en train de prêcher, et 7 personnes ont perdu la vie. tout le long de son ministère, sa femme était gravement malade, ou en tout cas à partir du début de son ministère, gravement malade, il a dû s'occuper d'elle, elle n'a plus jamais pu l'entendre prêcher à nouveau. Lui-même, il avait des problèmes de santé, des douleurs physiques régulières, parfois quotidiennes dans son corps. Et par-dessus tout ça, il luttait avec la dépression. Mais le fait qu'il savait que sa vie était conduite par Dieu, y compris dans les circonstances difficiles, c'est ça qui l'aidait à tenir bon. Et il a écrit ceci à un moment de sa vie, par rapport à ses épreuves, par rapport aux choses difficiles qu'il a vécues. « Ce serait une expérience très dure et éprouvante pour moi de penser que je traverse une affliction que Dieu ne m'a jamais envoyée, que mes épreuves n'ont jamais été mesurées par lui, ni ne m'ont été envoyées par son arrangement de leur poids et de leur quantité. » L'important n'est pas de savoir pourquoi Dieu nous conduit là où il nous conduit, mais de savoir que c'est lui qui nous y conduit. Et Spurgeon a dit à un autre moment de sa vie, « Dieu est trop bon pour être méchant, et il est trop sage pour se tromper. » Et quand nous ne comprenons pas ce que fait sa main, nous devons faire confiance à son cœur. Je ne sais pas si vous connaissez le cantique « Il me conduit ». C'est un chant auquel je suis très attaché parce qu'il a été un grand soutien pour moi il y a quelques années. Je ne vivais rien de dramatique, mais je venais de me convertir, je venais de devenir chrétien. J'avais 17-18 ans, quelque chose comme ça. J'étais chrétien depuis quelques mois seulement, je découvrais la foi chrétienne. Et je devais passer le bac cette année-là, et donc j'étais en plein dans les révisions. Et c'était aussi une période où j'étais plein de réflexions par rapport à l'avenir, par rapport à ce que je voulais faire de ma vie. Et donc j'avais plein d'anxiété, plein de craintes, plein de choses qui pesaient sur moi. Et puis avec le bac qui arrivait, je devais réviser. Et ça, c'était un sacré défi pour moi à l'époque. Mais je me souviens, au milieu de toutes ces anxiétés, alors que je révisais à mon bureau, j'avais régulièrement les paroles de ce chant « Il me conduit » qui me revenaient à l'esprit. Et le fait de le chanter, ça m'encourageait tellement. Et ce cantique dit ceci, il rappelle cette merveilleuse réalité que Dieu conduit ma vie, qu'il est aux commandes, que j'ai rien à craindre. Le cantique dit ceci, « Il me conduit, douce pensée, repos pour mon âme lassée. En tout lieu, son regard me suit, et par la main, il me conduit. Il me conduit, il me conduit, désormais pour lui, je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger. » Qui me conduit. Il me conduit. Troisième certitude que ce psaume 23 nous révèle au milieu de cette crise, il me garde en sécurité. Il me garde en sécurité. Être un berger, c'est pas si facile qu'on pense. On les voit sur les posters en train de siffler au soleil avec un agneau dans les bras, comme si la vie était belle, et puis le chant des oiseaux, et puis l'eau des ruisseaux qu'on entend. Mais parfois, le travail des bergers, ça ressemblait plutôt à un film d'action. Quand il fallait combattre un ours, quand il fallait combattre un lion, comme David l'a fait dans sa vie. Les bergers devaient garder les brebis du danger, et c'était parfois un travail difficile. Et c'est ce qu'on voit au verset 4 avec l'assurance de David. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. » La vallée de l'ombre de la mort ici ne fait pas référence de manière directe à la mort, mais c'est pour évoquer un lieu de menace, un lieu où on ne voudrait pas passer. Il y a d'autres traductions qui traduisent ainsi « la vallée où règne d'épaisses ténèbres ». C'est un peu l'image d'un chemin étroit entre des falaises de rochers où le danger pèse, où on voit l'ombre du danger qui s'approche sur le chemin. C'est vraiment l'endroit où personne ne voudrait aller. Mais David dit « quand je marche sur ce chemin, même pas peur, même pas peur ». Pourquoi est-ce qu'il peut dire ça? Parce que tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Parce que Dieu est là, il n'a pas à craindre, même ce lieu de menace. C'est un peu comme un enfant qui aurait peur du noir. S'il est seul dehors la nuit, il sera terrifié. Mais si son père ou sa mère est avec lui, ben ça ira beaucoup mieux. Il sera rassuré de leur présence. Et cet élément dans ce psaume, ça nous aide à voir que la promesse que Dieu fait, c'est pas la sécurité physique. La promesse que Dieu fait, c'est pas l'absence du danger. Mais la promesse que Dieu fait, c'est celle de sa présence dans le danger. C'est celle de sa présence dans la difficulté. Parce qu'il est question ici de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais Dieu promet d'être présent, quoi qu'il arrive. Et donc, parce que Dieu fait cette promesse, on n'a rien à craindre. C'est ce que Jésus dira, c'est ce que Jésus promettra à ses disciples, dans Jean au chapitre 10, juste quelques versets après avoir dit qu'il était le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, il dit ceci, « Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. Ces versets sont magnifiques, ils sont tellement précieux pour nous en tant que chrétiens. Ils montrent la sécurité éternelle que l'on a en tant que disciples de Jésus. Et c'est même une double sécurité parce que non seulement on est gardé dans la main de Jésus, selon le verset 28, mais aussi on est gardé dans la main du Père. Personne ne peut nous arracher de cette main puissante qui nous garde précieusement. Et donc on sait, on est confiant, on est assuré que peu importe ce qui se passe dans notre vie, malgré la maladie, malgré la souffrance et même malgré la mort, notre salut est assuré, notre âme est en sécurité. On chante dans notre église ici à Bruxelles un chant que je trouve magnifique, « Il me gardera », je ne sais pas si vous le connaissez, il a été composé en partie par le collectif Écriture Musique. Et une strophe de ce chant dit ceci, « Il chérit chacun des siens, Christ me gardera. Précieux sous son regard saint, il me gardera. Mon âme sera préservée, sa promesse tiendra. Quel grand prix il a payé, il me gardera. » Quel réconfort de chanter ces paroles, d'être rappelé de ces vérités. Surtout au milieu de ce que l'on vit. Une des grandes peines de la situation actuelle, c'est le nombre de morts que l'on entend chaque jour. Peut-être qu'on s'est habitué maintenant, mais ça reste terrible. Il y a quelques semaines, je lisais un article qui montrait comment la mort était encore pire que d'habitude dans un sens, parce que c'était une mort dans la solitude. Et l'article disait ceci, « Mourir seul, tel est le principal châtiment de ce virus qui ferme les paupières de tant d'humains avec une extrême brutalité. » La mort, c'est le pire ennemi de l'être humain. Et on doit réaliser que c'est réel pour chacun de nous. Mais si on peut dire que l'Éternel est notre berger, alors on peut aussi dire qu'on n'a pas à craindre la mort parce que Dieu garde notre âme en sécurité et parce que notre avenir éternel est certain. On raconte l'histoire suivante à propos de Barnhouse, qui était un théologien américain et qui a aussi par ailleurs été le premier directeur de l'Institut biblique de Bruxelles où j'ai étudié. Il conduisait ses enfants aux obsèques de son épouse était décédée, et il s'est arrêté à un carrefour. Et devant eux, il y avait un gros camion. Et le soleil faisait en sorte que l'ombre du camion, elle était projetée sur un grand champ de neige. Donc on voyait le gros camion et puis on voyait l'ombre du camion. Barnhouse, il s'est arrêté ici avec ses enfants et puis il a demandé à ses enfants « Regardez l'ombre de ce camion dans le champ, mes enfants. » Il a dit, « Si vous deviez être écrasé, est-ce que vous préféreriez que ce soit par le camion ou par l'ombre du camion ?» Le plus jeune des enfants, il a levé la main et il a dit, « Bah, par l'ombre du camion, parce qu'elle peut faire de mal à personne. » Barnhouse, il a répondu, « C'est juste. » Eh bien, rappelez-vous, mes enfants, que Jésus s'est laissé écraser par le camion de la mort pour qu'il ne puisse jamais nous détruire. Votre mère vit maintenant avec Jésus, seule l'ombre de la mort est passé sur elle. Votre mère vit maintenant avec Jésus, seule l'ombre de la mort est passée sur elle. C'est juste une histoire pour nous aider à réaliser qu'on n'a pas à craindre même la mort. La mort est réelle et c'est vrai que le fait de mourir peut faire peur. La mort n'est pas quelque chose d'agréable, mais en tant que chrétien, c'est que l'ombre de la mort qui passe sur nous. Quand je dis l'ombre de la mort, ce n'est pas pour faire référence à la vallée de l'ombre de la mort dont il est question ici dans le psaume 23, c'est une image différente. Mais c'est dans le sens de dire que s'endormir sur cette terre, c'est se réveiller dans la gloire. Quel encouragement, quel privilège, quel réconfort dans tout ce que nous vivons, même face à la mort. Il me garde en sécurité. Et pour terminer, quatrième certitude que nous révèle David, que nous révèle ce psaume 23 au milieu de la crise, sa grâce me poursuit, sa grâce me poursuit. Dans le verset 5, on a un changement d'image. Il n'est plus question ici d'un berger qui prend soin de ses brebis, mais l'image utilisée ici, c'est plutôt celle d'un hôte généreux qui offre un festin à son invité. Et ce verset, il évoque la bénédiction. Il est question de victoire sur les ennemis. Il est question d'huile sur la tête. Il est question de coupe qui déborde. C'est effectivement ce que David a connu à certains moments de sa vie. L'abondance, la victoire, le succès. Mais c'est là qu'on doit voir que ce psaume, que l'Ancien Testament, que la Bible tout entière nous amène à fixer les regards vers quelqu'un d'autre que David, vers celui qui est appelé le fils de David, Jésus lui-même. Parce que ce verset 5 et ce verset 6 sont vrais de manière encore plus grande pour Jésus quand lui, il a vécu sur terre. Parce que lui, il a mérité parfaitement la bénédiction de Dieu. Il a vécu une vie d'obéissance à son père. Il faisait la joie de son père. Il connaissait cette relation intime avec son père. Il n'a jamais péché, contrairement à nous. Et c'est à la lumière de Jésus qu'on peut lire ces versets aujourd'hui. Parce que lui qui méritait la bénédiction, il a été fait malédiction pour nous, en étant crucifié sur une croix. Lui, le juste, il a accepté de mourir pour des injustes, pour qu'on puisse être conduit à Dieu. Jésus a pris sur lui la colère de son Père, que l'on mérite. Il a connu le jugement, il a connu les ténèbres, il a connu la mort. Et puis il est ressuscité. Il était vivant, il était vainqueur sur la mort, vainqueur sur le péché. 1 Pierre 2 nous dit ceci, « Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéri, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. » Le bon berger a donné sa vie pour des brebis récalcitrantes, pour des brebis rebelles comme vous et moi. Pour qu'on puisse lire ce psaume aujourd'hui et connaître l'Éternel. Et qu'on puisse connaître l'Éternel, pas comme le juge qui doit nous condamner, mais comme le bon berger qui a donné sa vie pour nous sauver et qui promet aujourd'hui de prendre soin de nous. C'est à la lumière de l'œuvre de Jésus sur la croix qu'on peut dire aujourd'hui, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Et littéralement, ici dans ce verset, le verbe qui est utilisé, c'est « poursuivre ». La Bible du Semeur traduit ainsi, « Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront. » En tant que chrétien, on est pourchassé par la grâce que Dieu a manifestée sur le calvaire. On ne peut pas échapper à la bonté de Dieu si on a cru en Jésus. Rien ne pourra nous l'enlever. Et là encore, c'est ce que montre de manière majestueuse le Nouveau Testament et en particulier Romains 8, versets 38 et 39. « Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Sa grâce me poursuit. » Voilà les quatre certitudes que nous avons, que nous révèle ce psaume 23, même au milieu de cette crise. Et j'aimerais juste terminer en vous partageant l'histoire de un élément de l'histoire de John Patton. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de lui. Il était missionnaire aux Nouvelles-Hébrides parmi les cannibales au XIXe siècle. Il a eu une vie de souffrance, une vie remplie d'épreuves. C'est juste terrible quand on lit sa biographie. Elle vient d'ailleurs d'être rééditée il y a un ou deux ans en français. Il est arrivé sur l'île des Nouvelles-Hébrides en novembre 1858 avec sa femme qui était enceinte. Mais en février 1859, le bébé est né, en 1859, en février, mais en mars de la même année, sa femme est décédée. Et quelques semaines après, le bébé est décédé à son tour. Et donc, il était là, seul, sur cette île, en ayant perdu les deux êtres les plus chers de sa vie, rempli de chagrin. Il a creusé les deux tombes avec ses propres mains, et il a écrit ceci, « Il serait plus que vain d'essayer de peindre mes chagrins. » Mais il a aussi écrit ceci, et c'est avec ça que j'aimerais terminer cette prédication. Il écrit « J'ai ressenti cette perte » en parlant de la perte de sa femme, de son enfant. « J'ai ressenti cette perte au-delà de toute conception ou description dans ce pays sombre. Il était très difficile de se ressaisir, d'être laissé seul et dans des circonstances douloureuses, mais je me sentais immanquablement assuré que mon Dieu et Père était trop sage et trop aimant pour se tromper dans tout ce qu'il fait ou permet. Alors je me suis tourné vers le Seigneur pour obtenir de l'aide et j'ai continué à lutter dans son œuvre. Je me sentais immanquablement assuré que mon Dieu et Père était trop bon et trop sage et trop aimant pour se tromper dans tout ce qu'il fait ou permet. L'Éternel est notre berger. Il est trop sage et trop aimant. Il est trop bon pour se tromper dans tout ce qu'il fait ou permet. Alors malgré ce que nous vivons, continuons à avancer, chers frères et sœurs, dans la course chrétienne. J'aimerais prier pour terminer. Prions. Notre Dieu, merci pour les vérités merveilleuses de ce psaume 23 qui nous révèle ce réconfort que tu es notre bon berger si nous avons placé notre confiance en Jésus. Tu es au contrôle de nos vies. Tu n'es pas dépassé. Tu sais ce que tu fais. Tu es trop bon, trop sage, trop aimant pour te tromper dans tout ce que tu fais ou permets. Notre Dieu, fais grandir notre confiance en toi, en ta souveraineté, en ta toute-puissance. Et qu'en lisant ta parole, en découvrant cette grâce que tu as manifestée en Christ, on soit passionné, on soit émerveillé de ce que tu as fait pour nous. Merci parce que Jésus, le bon berger, a donné sa vie pour des brebis récalcitrantes comme nous. Merci parce qu'on est pourchassé par ta grâce. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tant de privilèges que l'on ne mérite pas. Et on prie ceci dans le nom de Jésus. Amen.